sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Messieurs les Chanceliers, mes chers confrères et consoeurs, quand le Président Del Volvé m'a demandé de parler de Raymond Aron, j'avais des raisons personnelles, puisqu'il s'agissait de Raymond Aron et que tant de choses m'attachent à lui, d'accepter, bien sûr. Mais j'avais des raisons intellectuelles, car... comme je le lui ai dit, il fallait dire pouvoir et puissance, parce que puissance est pour Aron plus important que pouvoir, et que d'une certaine façon, toute la réflexion politique et historique d'Aron porte sur l'ordre international, donc comme je vais le montrer, sur la puissance, sur la rivalité des puissances, et au cœur de l'ordre international, sur la guerre ou la paix, puisque l'ordre international se définit par l'état de nature, autrement dit, par le caractère belliqueux des protagonistes, par l'hétérogénéité des peuples et des régimes politiques, alors que l'ordre interne, au contraire, repose, en principe, sur la paix civile et l'homogénéité civique. Mais il paraît que, depuis Proust, il faut séparer la vie et l'œuvre. En ce qui concerne Aron, la vie et l'œuvre, et la réflexion sur la puissance, se confondent totalement. Si on résume sa vie en 6 étapes, il est né en 1905. D'abord, son choix philosophique va l'orienter sur la puissance. Il était l'élève de Léon Braunschweig, et Léon Braunschweig voulait qu'il écrive sa thèse sur une réflexion philosophique sur la biologie, sur la théorie de l'évolution, comme Braunschweig l'avait fait lui-même à propos des sciences physiques. Et au tout début des années 30, après réflexion, Aron s'est détourné de ce projet. Il est, je l'ai dit, né en 1905, dont la guerre de 14 domine la vie des hommes de cette génération. Et toute sa réflexion est portée sur la politique et l'histoire, ce qu'il décide, auquel il décide de se consacrer en 1930. En second lieu, son choix politique en juin 1940. En juin 1940, à ses yeux, la guerre n'est pas achevée. Il rejoint Londres. Il a toujours regretté, il n'était pas officier, il était sous-officier dans une arme mineure. Et il a toujours regretté de ne pas avoir été officier parce qu'il a cédé au pacifisme de sa génération. Et comme beaucoup de Normaliens de cette génération, il a refusé de faire sa préparation militaire supérieure. Et donc il se trouve à Londres dans une unité et il est tiré de cette unité pour devenir le rédacteur en chef d'une revue que créent les Britanniques et la France libre, et qui s'appelle La France libre, et dont il devient le rédacteur en chef. Donc son choix, dès 1940, c'est que la guerre n'est pas achevée. Après tout, c'est le choix de Gaulle et de Jean Monnet, de son camarade Dominique Lecas, qui était le directeur de cabinet de Renault, qui est également à Londres. Et il va, dans les deux hommes de sa génération, pour lesquels il aura le plus de tendresse et le plus d'admiration, font en France le même choix, c'est-à-dire Jean Cavaillès, qui est le héros par excellence, et son ami le plus proche, Ganguilhem. Troisième étape, ses écrits pendant la guerre. Son premier article porte sur la défaite. Il est corrigé par le général de Gaulle. Et un de ses derniers articles porte, qui n'est pas signé, que je publierai un jour d'ailleurs, qui est très beau, c'est un article de 1943-44, fin 43. Pourquoi l'Allemagne ne pouvait pas gagner la guerre ? À cause du choix stratégique de 1940. L'Allemagne a gagné la guerre de 40 et elle a perdu celle de 41, parce que le choix stratégique l'emportait sur les prouesses tactiques. Les prouesses tactiques de l'Allemagne ne pouvaient pas compenser le mauvais choix stratégique qu'elle avait fait. Quatrième étape, ses deux premiers grands livres politiques, Le Grand Schisme en 1948 et Les Guerres en chaîne en 1951, peut-être son meilleur livre d'ailleurs, oublié aujourd'hui, sont des livres consacrés à la division de l'Europe et à la possibilité de guerre. Quatrième et cinquième étape, son camarade Ganguilhem disait en plaisantant, Aron a fait trois fois sa thèse. Et il avait aussi une autre plaisanterie. Il disait, dans l'université française, il y a deux catégories. Il y a les professeurs intelligents et les professeurs qui travaillent. Et Raymond Aron appartient aux deux catégories. Et les trois thèses d'Aron, effectivement, c'est une plaisanterie de Canguilhem. Sa première thèse, en 1938, l'introduction à la philosophie de l'histoire, a comme thème central l'incertitude de l'action. Et c'est une réflexion, d'une certaine façon, sur l'homme politique face aux incertitudes. L'homme politique prend des décisions dont il ne connaît pas les conséquences. Et l'historien doit comprendre cela. Autrement dit, le passé est composé d'instants qui ont été des présents, et les présents se définissent comme des choix dans l'incertain. Et donc, il n'y a pas de nécessité historique. La réflexion historique consiste justement à comprendre les incertitudes de l'action. Sa deuxième thèse, en 1962, c'est « Paix et guerre entre les nations ». Là, on est dans le sujet central de l'ordre international. Et sa troisième thèse, en 1972, c'est « Penser la guerre », le titre est explicite, Clausewitz, deux volumes, « L'âge européen » et « L'âge planétaire ». Donc trois œuvres qui tournent essentiellement sur l'action politique, le drame politique d'une certaine façon et la guerre. Le terme « drame » d'ailleurs est toujours présent dans son esprit et il définit les hommes politiques entre ceux qui ont le sens du tragique, le sens du drame, et ceux qui ne l'ont pas, la deuxième catégorie étant la catégorie ordinaire, la première catégorie étant la catégorie historique. Et enfin, post-mortem, si j'ose dire, la présence de la guerre est toujours, et de la puissance est présente à ses yeux, puisque les deux seuls livres qu'il nous a recommandé de publier, les deux manuscrits qu'il a recommandé de publier après sa mort, sont d'une part son livre sur Marx et le rôle de Marx dans le XXe siècle, et d'autre part ses articles de politique étrangère du Figaro. Il nous avait dit « les articles de politique intérieure n'ont aucune importance, en revanche, mes articles de politique étrangère, je souhaiterais qu'ils soient réunis ». C'est notre confrère Georges-Henri Soutou qui les a réunis en trois beaux volumes que l'on peut lire encore. Donc l'œuvre est dominée par ce sujet que je traiterai en trois parties. Est-ce que le pouvoir et la puissance sont des synonymes? Est-ce que la puissance ou la rivalité des puissances est bien le concept clé de l'ordre international? Et enfin, assistons-nous à la fin de la puissance? Autrement dit, est-ce que le concept reste explicatif du monde actuel? Alors sur la première question, il s'en est expliqué, c'est relativement simple. À la différence de l'anglais et de l'allemand, qui ne disposent que d'un seul terme pour dire pouvoir, Power en anglais, Macht en allemand, le français dispose de deux termes distincts, pouvoir et puissance. En anglais, pour dire politique de puissance, on dit Power Politics. Quand on veut dire les grandes puissances, on dit les Great Powers. Et d'une certaine façon, le français est plus nuancé, et la nuance du français est très importante. D'ailleurs, si vous prenez l'autre, le plus grand livre qui existe en matière de relations internationales ou d'ordre international, qui est « La guerre du Péloponnèse » de Thucydide, le mot qui est le concept qui est le plus constamment utilisé est le concept de puissance qui traduit « dynamis » grec. Et tout Thucydide réfléchit de cette façon, la coalition des puissances, la fragilité des puissances, le rôle des régimes par rapport à la puissance, etc. Et si vous prenez un autre livre que je vais citer tout de suite, Hobbes, le concept de puissance est aussi déterminant chez lui. Alors voici la définition d'Aron, elle est très simple. Concept politique, la puissance désigne un rapport entre des hommes, mais comme simultanément il désigne un potentiel et non un acte, c'est là que le français est beaucoup plus précis que l'anglais, il désigne un potentiel et non un acte, on peut définir la puissance comme le potentiel que possède un homme ou un groupe d'hommes d'établir des rapports conformes à ses ou à leurs désirs avec d'autres hommes ou d'autres groupes. Donc c'est cette nuance, si vous voulez, qui permet de distinguer le potentiel et l'acte, nuance que Littré perçoit, puisque Littré précise que l'avantage du mot « puissance », c'est qu'il désigne quelque chose de permanent, de plus durable que le pouvoir étant plutôt du côté de l'acte et la puissance du côté du potentiel. Alors la première idée qui va apparaître chez Aron à partir de la notion de puissance, elle vient tout simplement de l'auteur le plus classique en ces matières, elle vient de Hobbes. Et il faut dire une chose simple, je crois, c'est que autour du pouvoir et de la puissance rôde la crainte. Et dans l'ordre international, je dirais, règne la crainte. Pourquoi ? Dans l'ordre interne, c'est très simple, c'est que le pouvoir, depuis l'origine, c'est peu d'hommes qui commandent à beaucoup d'hommes. Quand peu d'hommes commandent à beaucoup d'hommes, le peu d'hommes craint le beaucoup. Et le beaucoup n'est pas satisfait de l'existence du peu. Et donc la crainte préside nécessairement à la politique et au pouvoir. Et dans l'ordre international, elle règne, et il faut citer la phrase décisive de Hobbes, que Aron a constamment citée, qui est à l'origine de sa réflexion, « À tous les moments, les rois et les personnes qui détiennent l'autorité souveraine sont à cause de leur indépendance, les uns par rapport aux autres, donc les nations les unes par rapport aux autres, dans une perpétuelle suspicion. » Dans le texte latin de Hobbes est plus vigoureux que le texte anglais, parce qu'il disait plus clairement les choses. Dans le texte latin, Hobbes dit « sont en tout temps, les rois sont en tout temps ennemis entre eux. En effet, ils se soupçonnent sans cesse les uns les autres. » Et dans le texte anglais, il continue « et dans la situation et la posture, ils sont dans la situation et la posture des gladiateurs, leurs armes pointées, les yeux de chacun fixé sur l'autre, je veux parler, ajoute Hobbes, des forts, des garnisons, des canons qu'ils ont aux frontières de leur royaume et des espions qu'ils entretiennent continuellement chez leurs voisins, toute chose qui constitue une attitude de guerre. » Autrement dit, dans l'ordre international, la peur, la crainte règne et la guerre est présente. Non pas que la guerre soit nécessaire matériellement, mais l'idée de la guerre est constamment présente. Et Hobbes poursuit dans une typologie générale dans laquelle il y a trois causes de conflit. La rivalité, la nation peut être offensive pour obtenir quelque chose. La défiance, on veut garantir sa sécurité. Et la fierté, on veut garantir sa réputation. Et ces trois thèmes, si vous voulez, la réalité, la défiance et la fierté, expliquent pratiquement toutes les situations historiques. Et il y a, à l'opposé, trois causes pour rechercher la paix. C'est la crainte de la mort. Les hommes, les nations veulent survivre. En second lieu, le désir d'une vie plus agréable que celle de faire la guerre. Et en troisième lieu, l'espoir, dit Hobbes, d'obtenir une vie plus agréable par son industrie. Et donc on voit apparaître l'idée qui va être dominante au XVIIIe siècle, chez Kant et ensuite, si vous voulez, que le doux commerce peut favoriser la paix. Donc pour Aron, il n'y a strictement aucun doute, si vous voulez, quand on est dans l'ordre international, on est dans l'ordre de la rivalité des puissances. Évidemment, le discours juridique ou le discours politique, particulièrement dans les démocraties, tente à effacer cette réalité, mais cette réalité est suffisamment présente. J'ai à côté de moi le Military Balance que publie l'Institut d'études stratégiques de Londres et qui donne toutes les statistiques. Et on est obligé de constater que les hommes sur Terre aujourd'hui consacrent une grande partie de leur production à des dépenses d'armement, à construire des navires de guerre, à développer des techniques de guerre, etc. Autrement dit, la guerre est omniprésente dans les politiques, quelle que soit la nature des régimes. Alors venons au second point. La puissance est-elle bien le concept clé de l'ordre international ? La puissance, pourquoi est-elle spécifique de l'ordre international ? À cause de la pluralité et de la rivalité des acteurs autonomes, qu'on peut appeler d'ailleurs des puissances. Le premier principe dans l'ordre international, donc celui de la pluralité des centres de décision, implique le risque de guerre, et de ce risque naît le calcul des moyens qui composent la puissance, les buts ou les finalités de la puissance et le système dans lequel s'insère la ou les puissances. Alors vous avez au fond tous les éléments, à partir du simple terme de puissance, vous avez tous les éléments, tout l'index qui permet de comprendre l'ordre international. Vous avez les catégories, Une puissance est défensive ou offensive, une puissance est potentielle ou réelle, et on peut décliner, si vous voulez, toutes les autres catégories. Vous avez les moyens de la puissance, d'innombrables livres qui calculent les moyens de la puissance, tentent de mesurer et classifient les moyens de la puissance, la surface, la démographie, le nombre des hommes, la puissance de l'économie, la maîtrise des techniques, l'autorité à l'intérieur des puissances, plus il y a d'autorité, plus la guerre est facilitée, le moral, la cohésion des sociétés, l'homogénéité des sociétés, l'organisation des sociétés. Évidemment, tous les moyens de la puissance évoluent avec l'histoire et les moyens de la puissance de la guerre du Péloponnèse ne sont pas les mêmes que les moyens de la puissance de la guerre en Irak, etc. Mais la relation entre le concept et les moyens et le rôle des moyens dans l'organisation de la société est essentiel. Et la réflexion, il y a une autre réflexion qui apparaît très clairement et qui est la caractéristique de l'ordre international et qui avait été parfaitement vue par Clausewitz. Clausewitz a deux idées sur lesquelles il insiste, c'est-à-dire qu'il y a une incertitude fondamentale de la guerre et cette incertitude domine la notion de puissance, c'est-à-dire que compte tenu de l'hétérogénéité des moyens et compte tenu du rôle que peuvent jouer dans les différents éléments, les événements, la guerre est toujours incertaine. Et d'où cette expression très caractéristique de Clausewitz, c'est le brouillard de la guerre. On ne sait pas très bien ce qui va se passer parce que tout est engagé dans les sociétés, si vous voulez, et le résultat est totalement imprévisible. Donc il y a une espèce de mystère de la guerre, si vous voulez, qui donne à la notion de puissance ses caractéristiques. Ensuite, il y a le but et les finalités de la puissance, c'est-à-dire, il y a des classifications classiques, la sécurité, la force et la gloire. C'est la classification de Hobbes. Il y en a d'autres, l'espace, les hommes, les âmes. Mais dans toutes ces classifications des buts, des finalités de la puissance, pourquoi veut-on être puissant ? On veut être puissant pour conserver un espace, pour regrouper et défendre des hommes, pour défendre une idée. Donc vous retrouvez toutes les classifications possibles et il y a une pluralité de finalités qui justifie la puissance. Et enfin, la pluralité des acteurs fait que tout cela constitue un système, c'est-à-dire vous prenez le monde et il y a un système dans lequel il y a pluralité de puissances et les puissances sont homogènes ou hétérogènes, ce qui a une très très grande importance, si vous voulez. Si le degré d'homogénéité des puissances est grand, la guerre sera plus douce que si le degré d'hétérogénéité des puissances est très grand, la guerre sera plus cruelle. La guerre entre l'Allemagne et la Russie est extrêmement cruelle, il n'y a jamais eu de guerre aussi cruelle, à cause de la profonde hétérogénéité. La guerre entre Sparte et Athènes est moins violente d'une certaine façon, parce que l'homogénéité est plus grande. Et puis les systèmes peuvent être pluripolaires ou bipolaires. S'ils sont pluripolaires, sont-ils plus incertains que s'ils sont bipolaires ? C'est un sujet qui peut être discuté, puisque nous passons manifestement d'un monde bipolaire à un monde pluripolaire. Et bien entendu, la pluralité fait que se joint à la notion de puissance des notions presque aussi importantes qui sont les notions d'alliance et les notions de subordination, etc. Puisque à partir du moment où il y a pluralité des puissances, la guerre entraînera des recompositions dans les relations des puissances entre elles, qui ne seront pas toutes en guerre, mais qui pourront être alliées ou neutres. Ainsi, l'ordre international est défini par la rivalité des puissances. Alors, doit-on penser ou peut-on penser que cet ordre définit bien le passé ? Et Aron s'est expliqué là-dessus. Et là, au fond, toute son œuvre, et je conçois très bien que son œuvre provoque chez certains ou dans certaines disciplines une forme d'agacement, parce que un peu comme Hobbes, il y a une réduction de la réalité à ce phénomène limite qui est celui de la guerre. Alors Aron écarte, je vais le citer, deux illusions, ce qu'il appelle les illusions optimistes. Les illusions optimistes, c'est que, voilà sa citation, on peut considérer, première illusion, l'humanité entière comme une unité. Et deuxième illusion, on peut penser que la solidarité économique supprime la rivalité entre les puissances. Alors voilà comment il réagit. Cet optimisme n'est pas sans fondement. Parmi ceux qui y souscrivent, les uns mettent l'accent sur la prise de conscience par une minorité de l'humanité entière comme une unité supérieure en dignité à toutes les collectivités particulières. À en croire d'autres, c'est la solidarité économique entre toutes les collectivités qui est le fait majeur et qui obligera les nations à surmonter les nationalismes et à mettre au point une organisation raisonnable de leur coexistence. À en croire d'autres encore, c'est l'absurdité évidente d'une guerre livrée avec les moyens modernes de destruction qui rend anachronique le recours aux armes par les grandes puissances. Quant aux guerres de libération, c'est écrit en 62, elles appartiennent à des époques que les peuples d'Europe ont derrière eux. Aucun de ces arguments n'est sans poids, aucun n'est convaincant. Autrement dit, les arguments sont présents, si vous voulez, mais ils ne sont pas convaincants. Et là, c'est, nous y reviendrons tout à l'heure, c'est sa réponse, si vous voulez, au kantisme, au fond, à l'idée que nous retrouverons qu'il y a chez Kant, c'est que si tous les régimes politiques évoluent ce qu'ils pensent vers la République ou la démocratie, il n'y a pas de guerre entre République et démocratie, et le doux commerce favorisera la paix, et donc nous aboutirons à la paix perpétuelle. Et à ces deux illusions, il va revenir bien plus tard, en disant « il y a peut-être deux nouveautés ». Alors là, son raisonnement est un peu différent. Les deux nouveautés, à ses yeux, c'est les hommes découvrent qu'il y a désormais une capacité de destruction illimitée, c'est-à-dire la perception que désormais, à cause du nucléaire, les hommes peuvent détruire l'humanité et l'ensemble de la planète. Et deuxièmement, il y a la naissance d'une conscience morale et pragmatique pour limiter les conflits, ce que vous trouvez dans l'idée du traité de non-prolifération, etc. Donc il y a au fond deux nouveautés, et nous allons les étudier plus longuement, deux nouveautés aujourd'hui qui peut-être peuvent faire penser que la guerre n'est plus la limite nécessaire, c'est la capacité de destruction illimitée et la conscience morale. Alors voilà ce qu'il en dit, je ne nie pas ces deux nouveautés. La capacité de manipulation des forces naturelles pour la production et pour la destruction, le germe d'une conscience humaine à la fois morale, tous les hommes sont des hommes, et pragmatique, il est conforme à l'intérêt de tous les hommes de limiter les conflits entre les fractions de l'humanité, ces deux faits nouveaux sont-ils la preuve d'une phase nouvelle de l'aventure humaine ? Nous ne pouvons pas le savoir, nous devons le vouloir, nous sommes en droit de l'espérer. Donc, il conçoit ces deux nouveautés, mais il ne pense pas qu'elles modifient le mouvement historique. Ce qui m'amène à mon troisième point, fin ou pérennité de la puissance, du système des puissances. À la fin de sa vie, en 1982, juste un an avant sa mort, il avait terminé ses mémoires, qui lui ont donné une grande notoriété qu'il surprenait lui-même, et il ne savait pas très bien ce sur quoi il voulait écrire. Il hésitait entre reprendre Paix et guerre pour savoir s'il, compte tenu des deux indications que je viens de donner, il fallait en changer la perspective. Et il a écrit un texte que nous avons publié dans la 8e édition de Paix et guerre en 1984, un an après sa mort. Et dans ce texte, il répondait à une critique constante que lui faisait un de ses élèves et un de ses amis très proches, Pierre Asner, qui lui disait « l'époque a changé, Paix et guerre est trop interétatique, repose trop sur l'idée de la pluralité et de la rivalité. Et ce qui caractérise le monde intellectuel, c'est justement la perméabilité, c'est-à-dire la moindre séparation de l'interne et de l'externe. Et donc, il se posait la question et il a énuméré les raisons qui pourraient l'inviter à changer de concept clé ou à renoncer à ce concept clé. Autrement dit, il s'est demandé si le système interétatique qu'il avait décrit dans Paix et guerre n'était pas un aspect particulier et restait toujours un aspect essentiel. Alors je me contente de dresser la liste des questions qui légitiment son interrogation en 1982, en prenant les siennes et en en rajoutant d'autres qui correspondent au temps présent, puisque plus de 40 ans se sont passés depuis. Première objection qu'il écarte. Les chapitres de son livre sont extrêmement sévères pour ce qu'il appelle la fiction juridique, c'est-à-dire l'idée que le droit international définit l'ordre international. Il considère que c'est une fiction et il reprenait la plaisanterie de son ami Guérilhem qui disait « le droit international, c'est comme l'agrégation d'anglais contradictoire dans les termes ». Et donc, écartons-le, si vous voulez, le monde n'est pas gouverné par le droit. Deuxième objection, prédominance ou priorité du système économique sur le système interétatique. Alors, par rapport à 82, cette objection s'est amplifiée. Aujourd'hui, si vous voulez, toute une partie de la réflexion sur le système international, à cause du marché mondial et de la mondialisation, à cause du fait que la Chine et la Russie ayant quitté l'autarcie, si vous voulez, tout ce qu'a écrit Aron est antérieur à 89. Donc le monde est beaucoup plus unifié aujourd'hui qu'il ne l'était à son époque. Et donc il y a un système économique mondial, et d'une certaine façon, si vous voulez, ce système économique mondial joue un rôle considérable. Et on peut légitimement penser que l'ordre international, c'est plus le système économique mondial, le marché qui unifie, qu'il naît la rivalité interétatique. Et il faut partir ici de comment expliquer pourquoi le système économique international serait-il le contraire de la rivalité interétatique, serait-il pacifique par essence, alors que le premier est guerrier et belliqueux par essence. Et il faut partir de ce qu'on appelle le démenti de la loi de Sombart. Sombart est un grand économiste allemand, qui au début de sa vie était considéré par Bernstein comme le meilleur spécialiste et par Kautsky comme le meilleur spécialiste des textes de Marx, et qui à la fin de sa vie, professeur à Berlin, était devenu quasiment national-socialiste. Et Sombart avait énoncé vers 1900 une loi qui était démentie dès qu'il l'avait énoncée. La loi de Sombart, c'était que les nations deviennent économiquement de plus en plus indépendantes les unes des autres. Et c'est une loi historique tout à fait compréhensible parce qu'on est en 1900-1905, c'est le moment où le produit par tête allemand et le produit par tête américain dépassent le produit par tête anglais. Et c'est le moment dans lequel les croissances nationales sont plus rapides que les croissances du commerce international. Autrement dit, c'est une toute petite période de l'histoire dans laquelle les nations deviennent plus indépendantes les unes des autres dans l'ordre économique. Alors, ce qui s'est produit historiquement, c'est que la loi de Sombart est fausse. C'est à partir de 1945, si vous voulez, laissons de côté évidemment la rupture de 14-18, laissons de côté la rupture de l'entre-deux-guerres et la grande crise, à partir de 1945, la loi de Sombart n'est plus vérifiée et le taux de croissance du commerce mondial est plus élevé que le taux de croissance de la production mondiale. Si le taux de croissance du commerce mondial est plus élevé que le taux de croissance de la production mondiale, ça veut dire que les nations deviennent de plus en plus dépendantes les unes des autres. Et on avait, dans la négation de la loi de Sombart, une confirmation de l'idée qu'ancienne, c'est que le commerce rapprochait de plus en plus les nations, puisque d'une certaine façon, l'ordre économique étant séparé de l'ordre politique et devenant supérieur à l'ordre politique, le système de la rivalité, le système de la puissance disparaissait. Alors Aron va écrire des pages et des pages à différents aspects et il ne l'accepte pas et la question que nous devons nous poser aujourd'hui. Nous sommes peut-être à une époque où la loi de Sombartre devient vraie, c'est-à-dire qu'effectivement, depuis un ou deux ans, le taux de croissance du commerce mondial est inférieur au taux de croissance de la production mondiale. C'est-à-dire que le libre-échange, la mondialisation connaissent une crise. Nous verrons si cette crise se poursuit ou non, mais d'une certaine façon, la question est légitime. La troisième objection est celle qui est liée à la porosité des frontières, c'est-à-dire ce qui caractérise le monde actuel, du point de vue des croyances et des idées, des moyens de communication, du point de vue des migrations, du point de vue du terrorisme, c'est qu'il y a porosité. Incontestablement, si vous voulez, la division du monde en unités est de moins en moins vraie, puisque cette porosité fait qu'on ne peut plus distinguer ce qui est domestique et ce qui est international. Et on peut ajouter un quatrième point, qui est la question du climat, puisque la question du climat ne peut pas être réglée par aucune nation elle-même. Alors, vous savez qu'on dit que les Gaulois étaient extrêmement courageux et n'avaient peur que d'une chose, c'est que le ciel leur tombe sur la tête. J'ai cherché l'origine de cette citation, je ne l'ai pas trouvée, mais Google renvoie à Aristote. Alors, j'ai cherché les deux citations d'Aristote qui sont données. Aristote ne dit pas les Gaulois, Aristote dit les Celtes. Non, les Gaulois font partie des Celtes. Et il dit pas du tout qu'ils ont peur que le ciel leur tombe sur la tête. Il dit qu'ils sont très courageux, ils n'ont peur que d'une chose, c'est de la nature. Ils font des vagues, de la tempête, etc. Ce qui est, on voit bien quelle est l'idée, c'est exactement d'une certaine façon la situation des nations aujourd'hui qui n'ont peur que d'une seule chose, c'est du climat, et qui n'ont pas, sinon par une organisation supérieure aux nations, le moyen de résoudre le problème. Alors ce quatrième problème pourrait être un point de vue qui remet en cause la pluralité. Mais je pense que la réflexion d'Aron serait que le monde reste à l'ombre de l'interétatique. Et je donnerai les arguments contraires dans l'ordre suivant, que je soumets à votre jugement, c'est que la bellicosité ne s'atténue pas. Prenons quelques exemples. Le traité de non-prolifération des armes nucléaires en 1968 vise à l'interdiction des armes nucléaires, mais le Japon est au seuil et peut produire des armes nucléaires quand il veut. Israël n'est pas signataire du traité, mais dispose d'une grande quantité d'armes nucléaires. La Corée du Nord ne se réfrène pas, l'Iran non plus. Qui peut affirmer avec certitude aujourd'hui qu'il n'y aura pas prolifération ? Deuxième point, la Chine et la Russie ont développé, depuis une dizaine d'années, des moyens aériens de projection à longue distance qui réduisent la domination occidentale. Troisième point, de nouvelles armes, de nouvelles vulnérabilités apparaissent avec les big data, l'espace, le cyberespace, l'intelligence artificielle. Le cas de... on voit apparaître ce qui a toujours caractérisé la puissance américaine. Quand je faisais le cours de politique mondiale à Sciences Po, je m'amusais à faire le calcul suivant. Les États-Unis, l'Amérique a inventé un type de guerre tout à fait nouveau. Si vous prenez la guerre de sécession jusqu'à la guerre d'Irak, que vous calculez le nombre de personnes engagées, que vous divisez par le nombre de personnes mortes, eh bien, la guerre américaine est de plus en plus efficace. La courbe est comme ceci, elle est parfaite. C'est-à-dire qu'à chaque guerre nouvelle, par rapport au nombre de personnes engagées, les États-Unis ont moins de morts. C'est-à-dire que les Américains ont inventé la guerre démocratique d'une certaine façon, parce qu'une démocratie par nature est économe en hommes, et donc les Américains font la guerre avec du capital, ils substituent le capital au travail. Et nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle phase, puisque tous les types d'armes qui apparaissent aujourd'hui sont des armes menées loin du lieu du combat. Et on va vers une aviation sans pilote, on va, etc. Et donc, incontestablement, la technique fait apparaître de nouvelles armes qui sont caractéristiques du monde actuel. Continuons l'énoncé. Les dépenses d'armement augmentent dans le monde. J'ai à côté de moi le Military Balance que publie chaque année l'Institut stratégique de Londres. Partout dans le monde, les dépenses d'armement augmentent, sans aucune exception. En Asie, en Europe, partout. Cinquième point, en janvier 2018, les États-Unis, le département de la défense publie un volume qui s'appelle National Defense Strategy, et ils écrivent explicitement: nous devons modifier l'ordre des priorités. Désormais, la compétition des puissances devient la première priorité et la lutte contre le terrorisme devient la cinquième priorité. Autrement dit, explicitement, la première puissance du monde se donne comme objectif central la pluralité et la compétition des puissances. Donc, je crois que le schéma d'Aron reste vrai dans ce que nous pouvons considérer. Alors, je dirais, pour terminer, que le rêve et l'incertitude persistent ensemble. Le rêve, je l'ai mentionné plusieurs fois, c'est la paix perpétuelle par le doux commerce et la République universelle. Et je cite toujours, Pierre Asner avait rédigé un texte sur Kant que Léo Strauss avait publié dans son volume de philosophie politique, et Léo Strauss a écrit à Asner en lui disant: Kant a peut-être raison pour la paix perpétuelle, mais si l'on y réfléchit, on arrivera à la paix perpétuelle par la guerre perpétuelle. Donc le problème est réglé du point de vue de Léo Strauss. Le dernier argument pour lequel Aron avait un peu d'affection était, et je le cite en dernier parce que j'admire beaucoup l'homme, si vous voulez, il a été un de nos confrères, et l'argument de Fourastier. Vous verrez que ce n'est pas tout à fait un argument, mais qu'il mérite d'être cité dans un livre complètement oublié qui s'appelle « La grande métamorphose du XXe siècle ». C'est un livre de 1961 ou 60, je ne sais plus. Fourastier raisonne ainsi. On sait approximativement combien durera le système solaire qui conditionne la vie sur Terre. On sait aussi quand est apparue la vie humaine. Donc on a une idée de la durée entre l'apparition de la vie humaine et la disparition de la vie humaine. Si on rapporte à la durée de la vie humaine, entre l'apparition de la vie humaine et la disparition du système solaire, si on rapporte à cette durée la vie passée du genre humain, la vie passée du genre humain jusqu'à aujourd'hui reste infime et la vie future très longue. Et Fourastier fait un très joli calcul en rapportant les distances, si vous voulez. Il dit, au fond, la vie humaine, c'est l'humanité à 5 ou 6 ans. Et elle vivra environ 100 à 120 ans. Alors, en 5 ou 6 ans, l'humanité s'est donné le langage, l'art, la science. L'homme est encore dans l'enfance. Il grandira, dit Fourastier, en puissance et en sagesse. Il suffit d'attendre. Simplement, ce n'est pas un raisonnement. C'est une métaphore. C'est une métaphore édifiante. Et les métaphores édifiantes, l'édification, sert à consoler et à susciter l'espoir. Elle n'empêche pas d'agir, tout en sachant que nous ne savons pas. Espérer n'est pas savoir. Je vous remercie. Thank you.